Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal, enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fosse, le podcast rock et métal coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur toutes les plateformes de podcast possibles, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Google, Samsung et bien d'autres. Et comme aujourd'hui c'est le dernier jeudi du mois d'avril, je suis au Hellfest Corner pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar parisien. Comme chaque semaine, j'interviewe un groupe de métal ou de rock pour cette émission spéciale d'avril au Hellfest Corner. Je vais pouvoir réviser mon espagnol que j'ai pas pratiqué depuis le lycée, puisque j'ai le plaisir de recevoir le plus chicano des groupes de crossover trash français, ce sont les Loco Muerte. Bonsoir à vous.
Buenas noches, Loco Muerte, la familia.
C'est parfait, ça sature pas. Merci beaucoup d'être là ce soir au Hellfest Corner. Merci beaucoup à El Termito de faire en sorte que cette émission soit filmée. Voilà, la version vidéo sortira d'ici quelques jours, la semaine prochaine, hein, si tu as le temps. Mais en tout cas, c'est super sympa de t'occuper de ça. Merci beaucoup.
Aucun souci.
On va revenir au cours de cette interview très rapidement sur votre best-of Los Clásicos des Locos, sorti il y a un an, le 4 avril 2023. On va évidemment parler de votre prochain album prévu pour le 27 septembre. Il s'appelle Parano Booster. Et vous avez sorti le premier extrait le 12 avril dernier. Comme chaque semaine, on va faire un focus sur un contenu de la plateforme SVOD The Pit. Et puisque vous aimez le trash, vous aimez le hardcore, je vais vous parler du documentaire Get Trashed, un documentaire ultime sur l'histoire du trash metal et du crossover. On en reparle tout à l'heure durant l'interview. Juste après l'interview, il y aura la chronique de Lolo, Laurent Rossier du Hellfest Corner, qui va vous parler de métal et d'histoire avec un grand H en lien avec le nouvel album de Seth, La France des Maudits, qui sort le 14 juillet, la Révolution française, tout ça, tout ça. Et je rappelle aux clients du Hellfest Corner que Gérard Drouot Productions, je vais y arriver, vous offre deux places pour le concert de ZZ Top mardi 9 juillet au Zénith de Paris. Et pour tenter de gagner des places, il faut demander au barman un petit ticket pour chaque commande. Bah tu sais quoi, voilà, comme je parle beaucoup, on va passer tout de suite au Loco Muerte. Groupe formé en 2009 dans l'Essonne, le 91, El Barrio Nueve Uno, comme vous dites dans un morceau qu'on va écouter un petit peu plus tard. Dans ce groupe, on trouve donc Nico Loco à la basse, El Micho à la guitare depuis le début, depuis 2009,
oui.
El Termito au chant depuis 2014, le plus jeune du groupe, et El Floco, le dernier membre en date, à la batterie depuis 2020. Loco Muerte, si je résume, c'est une blague entre potes qui tourne bien, puisqu'à la base, vous aviez des chants avec des lignes, du chant avec des lignes reggaeton sur des riffs trash crossover, un batteur de funk qui n'avait jamais joué de métal, et surtout aucun membre d'origine latino jusqu'à l'arrivée d'El Termito. Voilà, c'est une blague qui tourne bien, puisque bah, ça a marché. Plus sérieusement, vous êtes un groupe donc de trash metal, crossover, punk hardcore, vous appelez ça du chicano moche. Ouais. Très influencé Anthrax, Suicidal Tendencies, Madball, Municipal Waste, Stormtroopers of Death, enfin voilà, tous les groupes de cette mouvance-là. Avec un délire donc chicano, hispanique, latino et donc même reggaeton. Et je pensais que c'était un concept très réfléchi, mais en fait pas du tout. C'est un peu par hasard que vous êtes parti dans cette voie latino, puisque votre ancien chanteur était fan de reggaeton et le flow passait bien sur vos riffs old school de métal. Si je comprends bien, faut pas être forcément hispanophone pour faire partie de Loco Muerte.
Exactement, tout comme tous les groupes de hardcore qui chantent en anglais ne sont pas de Brooklyn.
Effectivement.
Voilà, et en fait, on adore tout ce qui groove et il se trouve que l'espagnol, ça groove à mort. Et comme le crossover, ça groove et qu'on voilà, on voulait revenir aux racines de ce style, mais en le mettant, en fait, on l'a fait un petit peu comme ça au flow. Enfin, c'est quelque chose qui a été très naturel finalement.
Pas du tout réfléchi.
Et voilà, c'est ça le truc. C'était vraiment, depuis le départ, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qu'on a fait avant tout très égoïstement pour nous, pour kiffer. Et puis, il y a plein de gens qui ont suivi, qui ont accroché les wagons. Donc, super, des groupes.
Et on en est là, à la veille de la sortie de votre quatrième album. Enfin, la veille, quelques mois avant la sortie de votre quatrième album. Mais je reviens sur le délire un peu hispanique. Floco et El Termito, c'était votre délire avant ou pas du tout?
C'est assez drôle parce que moi j'étais fan du groupe à la base.
Tout à fait.
Je suis allé voir Black Bomb au Divan du Monde, me semble-t-il. Loco Muerte faisait la première partie et c'est un gars qui est venu m'haranguer dans la foule. Venez voir la première partie, Loco Muerte et tout, ça déchire. Et il se trouve que c'était le voisin. De là où Loco Muerte a démarré, dans la petite maison à Wiggly, et du coup c'était le voisin, et du coup je suis tombé devant Loco Morte, j'ai écouté le premier album, j'ai fait waouh. Alors j'ai téléchargé illégalement, je suis désolé.
Salaud.
Tu t'es rattrapé depuis, ouais, tu t'es rattrapé.
Prison. Un bandido, el bandolero.
Ouais, bah attends, si tu veux.
En tout cas, vous vous êtes bien trouvé, et voilà, ouais, enfin, t'es devenu fan, on va en parler, t'as intégré le groupe, enfin voilà, c'est on peut retrouver ça.
Estrella de la suerte, on a toujours eu beaucoup de chance dans ce groupe.
On va en parler après de la chance, parce qu'effectivement, c'est un truc très important pour vous. Loco Muerte, vous avez donc sorti 3 albums, Machina de Guerra en 2011, Traición, Bendición en 2013, et la Brigada de los Muertos en 2018. En 2023, vous avez sorti Los Clásicos de Locos, qui est un best-of où vous avez réenregistré des morceaux de votre premier et deuxième album, avec donc votre nouveau line-up au complet. Mais en même temps, vous commenciez déjà un petit peu à préparer l'album suivant. Los Clásicos, c'était un échauffement avant cet album. C'est ce que vous répétez souvent en interview. C'était un peu pour, pour tester un petit peu aussi l'enregistrement, les nouveaux membres et tout. Voilà, comme ça au moins, c'était...
Pour revenir aussi, parce que on est toujours depuis le départ, il y a Steph Burier qui est derrière nous, les mecs de Lofo et tout ça, qui nous ont toujours suivis et encouragés. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait des vies professionnelles assez chargées, donc on avait un peu de mal à développer le groupe en dehors de faire de la musique de faire des concerts super cool, et de composer. On avait du mal à faire de la com et tout ça. Et là, on avait vraiment envie de revenir pour vraiment jouer beaucoup. Et Steph, quand on en a discuté ensemble, m'a dit putain, mais vos premiers albums, ça défonce vraiment. Il y a des gens qui vous connaissent, mais il y a plein de gens qui vous connaissent pas. Et ça serait hyper cool de réenregistrer
les titres
qu'on préfère avec El Termito au chant, puisqu'il les chantait sur scène depuis 2014. Il chantait les Lindon Ox, mais on n'avait pas d'enregistrement de lui à partir de la Brigada quand il est arrivé. Il a commencé à composer avec nous. Et puis il y avait El Floco qui arrivait à la batterie, qui envoie grave du lourd, donc on avait trop envie. Et puis en fait, toujours, c'est un groupe qu'on a créé en hommage à Suicidal. On a toujours adoré l'esprit Suicidal. Pas tant dans bien sûr la musique, mais on s'est pas vraiment inspiré trop de la musique, mais plus de l'état d'esprit.
Bien sûr.
Et en fait, c'est un peu ce qu'avait fait Suicidal à l'époque avec Steel Psycho, After All This Year. Ils avaient, quand Robert Trujillo est arrivé et tout ça, ils avaient réenregistré tous les anciens morceaux à l'époque de La Camera Revolution, qui est un des meilleurs albums de crossover de toute la planète.
C'est dit.
Et donc.
Vous avez fait un peu pareil.
Voilà, on s'est dit on va faire ça, et du coup on a été au Vamakara Studio pour enregistrer
HK.
Avec HK, et on avait déjà commencé à composer énormément de morceaux pour le prochain album, et on voulait avant tout retourner sur scène et relancer vraiment toute la machine.
C'était une petite marche
avant de repartir, et ça a super bien marché, parce que Los Clásicos, il y a plein de gens qui le découvrent encore aujourd'hui, qui découvrent les morceaux, qui nous découvrent sur scène, et on a un retour méga positif du public, plein de gens qui nous suivent. Ce soir, il y a la Brigada Nueve Ono, notre street team qu'on a créé il y a quelques mois, et on a déjà plus de 120 membres.
Ah, ne dévoile pas tout. En tout cas, voilà, Los Clásicos de Locos, c'était une manière aussi de présenter vos morceaux de manière plus moderne à un large public. J'imagine aussi plus proche de la façon dont vous les jouez en live aujourd'hui aussi, d'une certaine manière. Quoi.
Ils ont pas hyper... il y a eu quelques petites évolutions, notamment El Termito, il a su en fait garder toute l'âme de base de la salsa Loco Muerte en mettant son propre timbre et tout ça. Et puis El Floco a vraiment amené une grosse dynamique aussi au niveau de la batterie. Mais c'est vrai qu'on est resté quand même relativement fidèle, parce que les morceaux étaient super comme ça, et c'est un peu l'origine de la salsa.
C'est bien, t'as anticipé l'une de mes questions pour après, mais qu'ont apporté Termito et El Floco, tu l'as dit, effectivement, ils ont apporté
la jeunesse
pour Termito, effectivement.
Ce serait qu'avec El Micho, on est les anciens, les fondateurs, mais aussi les anciens, puisqu'on a plus de 50 ballets, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble,
et vous êtes jeunes dans vos têtes.
Voilà, ça, siempre loco.
C'est aussi ça qui est intéressant, c'est aussi la rencontre des deux générations, quelque part, qui fait cette salsa Loco Muerte, quoi, finalement.
Ouais, la salsa Loco Muerte. En fait, nous, on a grandi avec toutes ces origines du trash, du crossover, du punk, du hardcore. Et même, là, on parlait de ZZ Top, mais moi, c'est un de mes groupes préférés. Ça fait partie des influences au fond de moi, au fond de mon ADN. Voilà.
Dans l'inconscient, ouais.
Bah ouais, Dusty Hill, voilà.
En plus, ils viennent du Texas, il y a aussi
ouais,
le délire un peu hispanique.
Mais ouais, bien sûr.
Ils ont des petits morceaux.
Ils ont influencé plein de groupes, tu vois. Pantera, pourquoi ça sonne comme ça, c'est parce que c'est des gros fans de ZZ Top, tu vois.
Bien sûr, absolument.
Et ce côté groove, ce côté rock'n'roll aussi. Donc en fait, on a digéré toutes ces racines et après il y avait le flow en espagnol qui fait qu'au final c'est pas du crossover old school qui réplique ce que faisait SOD en 1980, c'est vraiment un peu un condensé de tout et c'est pour ça qu'on dit qu'on s'est un peu réapproprié tout le style, on l'a réinventé à notre sauce.
Et vous avez votre patte, ouais.
Voilà, qui s'appelle, on a appelé ça le Chicano Moche.
Le Chicano Moche.
Et ben on va écouter. On adore les Chicanos.
Et ben on va écouter la salsa Loco Muerte. Voilà, on va écouter un extrait de Los Clásicos de Locos. Et on se retrouve juste après. Alors j'avais le choix, Bandolero, qui est le premier morceau que t'as chanté avec Loco Muerte.
Exactement.
Tiro pa matar.
T'as bien
Mi
bossé.
Familia. Enfin voilà, il y en avait plein, mais j'ai choisi Barrio. Et on va en parler rapidement juste après. C'est parti, Loco Muerte, Barrio.
Vamos.
Extrait de la compilation Los Clásicos de Locos, sorti en 2023. Je suis avec Nico et El Termito de Loco Muerte pour cette émission spéciale au Hellfest Corner. Alors Barrio, à la base, c'est un morceau qui est sur votre tout premier album, Máquina de Guerra. Alors on va parler du clip, et c'est pour ça que j'ai diffusé, parce qu'en fait, il y a une petite actu qui est très récente, puisqu'en fait, ce clip, il a été fait en collaboration avec une association, un groupe. Alors je vous laisse en parler et résumer un petit peu cet asso et ce groupe du coup maintenant.
C'est même une ONG plus qu'une association, hein, c'est l'ONG Savage Land qui a été montée par Sylvain de Mercastel, ex Art Sonic, et dire que le batteur de Megadeth, parce qu'ils étaient potes, et en fait Sylvain il vit au Costa Rica une partie de l'année, et donc c'est pour protéger les forêts du Costa Rica en collectant des fonds via la musique, via des artistes. Donc dans ce projet, on retrouve Andreas Kisser de Sepultura, il y a John Tardy d'Obituary, enfin il y a vraiment
Étienne Époune de Black Bombé pour les Français. Bombe, il y a la femme de Robert Trujillo aussi qui fait une apparition.
Voilà, Chloé Trujillo qui a fait une apparition dans le clip, etc. Et il y a El Floco, le batteur de Loco Muerte, qui est à la batterie. Voilà. Et qui est dans le dernier clip qui vient de sortir.
Hier. Et il y a Eilung également qui supporte le projet. Le groupe
exactement, il y avait le chanteur Eilung qui était dedans. Ils ont été à Los Angeles pour le faire. Et c'est notre réalisateur Gornos qui a fait nos clips, qui réalise aussi le clip. Donc génial. Et ils vont jouer sur la main stage du Hellfest, pardon.
Mais tu as mon conducteur devant les yeux, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. C'est
je lis dans les écrans à
c'est
l'envers.
Ça. C'est que du coup, effectivement, ils ont dévoilé. Donc je reviens juste rapidement, comme tu l'as dit, cette association à but non lucratif, donc cette ONG, Savage Lands, a pour objectif de défendre les forêts du Costa Rica à travers la musique. Donc il y a un groupe qui s'est créé. Tu as cité un petit peu le line-up, donc ça c'est parfait. Mm-hmm. Grâce aux royalties générées par le premier morceau qu'ils ont dévoilé, c'était The Last Hole. Ils ont réussi à sauver de l'abattage 60 000 mètres carrés de la forêt tropicale au Costa Rica. C'est quand même
balèze.
Et donc,
bravo.
Ils viennent de dévoiler un deuxième morceau. Donc, hier, Black Rock Art. Et donc, il y a pas mal de guests. On a cité un peu tous les guests, et il y a notamment votre batteur dans le clip. Et donc, le groupe Savage Lands se produira sur la main stage du Hellfest le vendredi 28 juin, après l'Ofofora, que vous aimez bien aussi. Et donc, ce sera votre batteur sur scène, ou ce sera celui
exactement,
de Megadeth?
Ce sera El Floco. Il est il bosse.
On devrait apparaître, alors c'est peut-être une surprise, mais on devrait apparaître peut-être dans les écrans.
D'accord, peut-être des figurants ou autre.
C'est un super projet, et quand on a fait Barrio, justement, parce que l'année dernière, quand on a joué là, pour le coup sur la Hellstage au Hellfest. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là. Vous étiez extrêmement nombreux et on a passé un putain de moment. C'est sur notre chaîne YouTube pour ceux qui voudraient revoir. Et on a fait venir Sylvain et puis aussi Steph Burier, parce que Steph Burier fait partie aussi du projet Savage Land, bien sûr.
Auré d'Acabel, t'es pas sur scène à ce moment-là. Voilà, mais...
Parce qu'ils ont fait une reprise de Sepultura aussi sur la Temple.
Absolument.
Et donc, ils sont venus, on a filmé le truc et on avait envie. Ben, il est venu sur le morceau Barrio. Et du coup, Sylvain a fait des images au Costa Rica qu'on a mixé avec nos images ici, qu'on a tourné aussi avec la Brigada qui est venue, notre street team qui est venue nous aider pour ce clip, et ça a fait un super résultat. On est hyper contents.
Voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau.
Merci à toi.
J'avais beaucoup de choix, mais voilà, moi j'ai choisi celui-là.
Demain j'enregistre pour Savage Land là. Je vais faire ça chez moi, etc. Là, il y a Steph qui m'a envoyé les pistes là, genre il y a une demi-heure. Donc
mais bientôt il va y avoir tout le groupe dans Savage Lands, dans le groupe. Voilà. Alors, comment ça s'est passé très rapidement l'enregistrement de Los Clásicos de Locos? En gros, est-ce que vous êtes éclaté autant que comme si c'était un nouvel album en fait?
À fond.
Ouais.
Ah, c'était top. Ouais, parce que en fait, ces morceaux, on s'en lasse pas, quoi. Comme on en parlait un petit peu en off, nous, on adore composer de la musique et notamment, on adore faire des chansons. Parce que tous les groupes qu'on aime, de Metallica à Slayer, Morbid Angel, ZZ Top, en fait, c'est des groupes qui savent écrire des chansons. En fait, on aime bien faire des compos entre guillemets relativement. J'ai pas envie de dire simple parce que c'est difficile d'être simple.
Mais
en fait, avec un vrai refrain, voilà, pas une suite de riffs. Et donc du coup c'est des morceaux, ça fait je sais pas 14 ans qu'on les joue, et 14 ans à chaque fois qu'on les joue sur scène, on s'éclate toujours autant. Et là, de rentrer en studio, c'était de les réenregistrer avec El Termito qui a pu vraiment s'éclater à fond, et El Floco, c'était, ça nous a soudés à mort.
Seconde jeunesse,
vraiment. Et on a pu bien tester le studio ensemble, on s'est bien éclaté.
Et puis tous les petits gimmicks qu'on a trouvé en live pendant 10 ans, on a
ils étaient bien réfléchis, bien poncés entre guillemets, et ça venait naturellement. J'imagine que ça a dû aller assez vite. Oui. Alors El Termito, justement, tu es le seul membre du groupe avec des origines latino, mais tu disais qu'à la maison ça parlait pas espagnol. Alors, intégrer les Loco Muerte, est-ce que ça t'a connecté un peu avec ta culture familiale? Qu'est-ce qu'en a pensé ta famille?
Écoute, en fait, c'est assez compliqué parce que, si tu veux, c'est que les origines. Donc, en fait,
de quel pays d'ailleurs? Je sais pas.
En fait, c'est pas tellement latino, c'est plus espagnol. Espagnol et italienne, ce que je m'appelle Corsini, qui sonne plus italien pour le coup.
C'est vrai.
En fait, à la maison, ça parlait ni espagnol ni italien. C'est plus des origines
un peu lointaines
de ma grand-mère des arrière-grand-mères, tout ça. Donc, effectivement, ça a pu me rapprocher de peut-être mes ancêtres, je ne sais pas.
Je pense que surtout, il a super kiffé le flow de Nox à l'époque. Comme il a une oreille incroyable et qu'il a une aisance.
Une voix aussi incroyable.
Une voix et une oreille. Ouais. Ouais, franchement, là, les flows qu'il est capable de faire, bon, on en parlera quand on parlera du nouvel album. Mais franchement. C'était une sacrée perf, il a mis beaucoup de gens sur le cul.
Difficile de passer après votre premier chanteur qui avait un début assez rapide.
Carrément, ouais.
Et l'histoire que vous racontez souvent, c'est que le premier morceau que t'as chanté, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Bandolero, qui est un morceau hyper rapide, difficile, en tout cas j'imagine.
C'est ça, parce que c'est vraiment les flows de reggaeton à la base, pour ceux qui connaissent pas le reggaeton, c'est un mélange de hip-hop. En fait, c'est les portoricains, les gens d'origine latino qui vivent aux États-Unis qui ont développé ce style entre rap et avec des origines, des touches de salsa.
Ça
et n'a autre.
Rien à voir avec le reggaeton en public qu'on peut entendre aujourd'hui.
Il y a une frange hardcore, entre guillemets, comme dans le rap. Il y a du rap hardcore et du rap mainstream. Là, il y a vraiment plein de gens comme la Calle 13, comme Don Omar, Julio Bolcho, qui ont des flows vraiment ravageurs. Et en fait, il était capable de faire ça, mais sur des rythmes crossover, hardcore et tout, avec parfois des passages saturés et tout. Donc, c'est vraiment une perf.
C'est
et quand l'histoire s'est arrêtée avec Nox, on s'est dit « Waouh !» Là, on est dans la
impossible
merde.
Impossible de
notre
trouver.
Notre rêve ne va pas continuer. Notre kiff, notre machine à kiff, Loco Muerte, risque de s'arrêter brutalement. Et heureusement, il est arrivé Estrella de la Suerte.
Heureusement.
Intermito.
Effectivement, je ne vais pas vous poser la question parce que vous y répondez très, très souvent en interview. Mais en gros, tu bossais pour une web radio. Tu voulais interviewer Loco Muerte dont tu étais fan. Et puis, on cherche un chanteur. Je chante. Et donc voilà, ça s'est passé comme
exactement.
Ça.
Exactement.
Alors, j'ai l'impression que l'année 2023, c'est une étape très importante pour Loco Muerte, c'est un peu un tournant, puisque donc vous avez sorti Los Clásicos, donc il y a un peu le lien entre le passé et le futur du groupe.
Exactement.
Vous avez joué au Off du Hellfest et sur la Hell Stage l'année dernière avec deux concerts très remarqués et très mouvementés, disons, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui vous a permis notamment tout ça de décrocher plus de dates et donc de vous faire beaucoup plus connaître avant la sortie de votre quatrième album, ce qui est quand même pas mal. Et par-dessus tout ça, depuis un an et demi, deux ans à peu près, toi, Nico, tu n'as plus de taf à côté du groupe, tu te consacres à 100% pour le groupe. Donc en fait, c'est un peu le travail qui paye, quoi.
Je voulais faire ça avant de mourir, c'est ce qu'on appelle la vie de la loca.
Tu spoil un petit peu le morceau d'après.
Pardon.
Mais en tout cas, dans votre nom, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le mot Muerte vient de la mort d'anciens projets musicaux à vous, Nico et Micho, et Loco, parce que on vous disait que vous étiez fou de vouloir continuer la musique à vos âges.
Ouais.
C'était dur de pérenniser Loco Muerte.
En fait, pérenniser Loco Muerte, non, mais parce que tout était hyper naturel chez Loco Muerte. En fait, c'est un peu comme si tout ce qu'on avait fait avant nous avait permis de pouvoir très naturellement, puis surtout, comme je le disais au début, c'était vraiment quelque chose de très instinctif et pour le vraiment animé que par du plaisir. On pensait jamais, on savait même pas si on allait faire des concerts, on voulait juste composer des morceaux,
juste
évidemment
jouer,
revenir sur scène peut-être, mais on n'avait pas du tout. Et très vite, c'est les Black Bomb qui nous ont donné notre chance au départ. La première fois, ils nous ont appelé parce qu'on avait mis un morceau à l'époque sur MySpace et ils l'avaient écouté, ils avaient trouvé ça cool. Et on allait sur tous les concerts, comme on fait toujours, donner nos stickers et tout ça. Donc ça
à l'ancienne, comme dans les années 80. Parce que
exactement.
C'est comme ça que Metallica.
Mode Street Team, exactement.
Ouais, c'est comme ça que Metallica a marché. C'est que Lars Ulrich distribuait des démos de Metallica en disant « Hey, vous avez écouté ce groupe-là, c'est génial !» Comme si c'était pas le seul.
C'est ce qu'on faisait. On allait voir les mecs avec notre bandana sur la gueule, on disait tiens, va écouter ça, c'est la Suicidal avec du chant en espagnol. Suicidal mortel et tout avec du chant en espagnol. Et en fait,
c'est génial.
C'est un peu ce truc là parce qu'on vient de là. Hein. Richard, Micho, il a fait son premier groupe de trash en 1989, Damage. Donc on est dans l'ancien et on a pris tout ce qui était cool dans l'ancienne époque et on essaye de moderniser aussi la com maintenant. Mais en tout cas, tout s'est fait vraiment hyper naturellement et on a commencé à nous appeler donc Black Bomb en premier. Et après, il y a les mecs du plan qui nous ont fait le cadeau qu'on ne pensait jamais avoir. C'est-à-dire, ils nous ont appelé pour dire vous voulez pas faire la première partie, vous avez eu le temps de 6.
Travers mon ordi, c'est incroyable, puisque je voulais dire que vous avez toujours été très bien épaulé, accompagné, repéré. Black Bombay pour d'abord. Première partie de Suicidal Tendencies en troisième concert, je crois, quelque chose comme ça, ou très rapidement après le début.
Ça, c'est ouf.
Vous avez toujours eu des parrains un peu gros.
Lofofora.
Steph Burier, vous en parlez. Lofofora, vous enregistrez chez H4 Vamakara Studio. Enfin voilà, c'est pas des inconnus, tous ces gens-là. Toi, notamment, Nico, t'es fier aujourd'hui de ce que vous avez accompli avec Loco Muerte?
Je suis surtout plus
même toi aussi, mais bon, c'est vrai.
Je suis surtout plus heureux que fier, et surtout, c'est un kiff incroyable parce qu'on pense. En fait, On a fait ça sans attendre rien du tout, en mode vraiment plaisir. On n'a jamais eu... Comme quoi, le fait de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête et d'être vraiment sincère, ben, ça fonctionne. Hein. Mais pour lâcher prise, il faut vraiment toucher le fond. On avait vraiment complètement touché le fond. Et Loco Muerte, c'était vraiment notre fight club à nous. Quoi. On avait les boules. Moi, à cette époque-là, ma vie, c'était de la merde. David aussi, à l'époque, Devil Dev, notre batteur. Et
ancien
on venait,
batteur,
on se défoulait plutôt que d'éclater des gueules dans la rue. On venait s'éclater dans notre.
C'est une thérapie. Hein.
Voilà, et c'était vraiment. C'est pour ça qu'on disait que c'était vraiment notre fight club. Quoi. Et on se lâchait, on en avait rien à foutre qu'on nous dise, ouais, cette musique, ça a déjà été fait ou pas que ça. On en avait rien à
voir. Quand vous chantez en espagnol,
on était en mode à Weibo. Voilà, en espagnol, ça faisait marrer que nous. Mais tu vois, même, on n'en avait même pas parlé à notre ingénieur du son, histoire qu'il nous casse pas. leur dire, ouais, mais qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce c'est n'importe quoi et tout. Ouais, bah ouais, on s'en foutait, tu vois. Et
en fait,
comme quoi, quand tu fais quelque chose de vraiment du fond du cœur, super sincèrement, bah voilà.
Et je pense et en que fait, ça se ressent. Ouais.
On se disait, bah, c'est que du plus. Normalement, on devrait, à l'âge qu'on a avec ce qu'on a fait dans l'Asie, qu'on aurait déjà dû arrêter, s'occuper de nos familles ou d'un boulot et raccrocher les grattes. Et voilà, c'est pour ça le côté local, on n'a jamais lâché l'affaire. Quoi. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous les groupes ce soir, c'est lâchez jamais l'affaire et faites les choses de manière super sincère avec le cœur sans attendre de retour du truc. Quoi. Mmh. Parce qu'au moins, t'es pas amer, t'es pas déçu, tu donnes. Quoi. Et en fait. Du coup, c'est génial que c'est pu perdurer et maintenant prendre une dimension où on partage ça avec vachement plus de
et
gens.
De
quoi.
Plus en plus, en donc, tout cas, on espère. Parce qu'il faut le dire, t'en as un petit peu, tu l'as un petit peu dit là. Vous êtes un groupe qui déconne, voilà. Vous êtes un groupe qui sautait partout, voilà, qui avait toujours le smile, qui rigolait beaucoup. Mais vous bossez aussi beaucoup. Vous êtes très sérieux à ce niveau-là,
ça,
en coulisses notamment. Toi, Nico, t'es depuis devenu le manager du groupe. C'est ce que j'allais dire, c'est que bah voilà, maintenant, toi, t'as plus de taf. Ouais, c'est ce que je voulais dire. T'as plus de taf à côté. Ah, maintenant, t'es manager du groupe et bassiste évidemment. Mais du coup, voilà, c'est ce donner les moyens aussi que ça marche, mais vous bossez beaucoup pour ça. Quoi.
Bah voilà, c'est ça, c'est que en fait, moi j'ai eu une entreprise pendant un peu plus de 20 ans, donc voilà, je sais ce que c'est de, voilà, d'élevage de reptiles, etc. Et je sais ce que c'est de me lever le matin et de développer quelque chose. Hein. J'ai commencé dans un garage tout seul sur une table de ping-pong.
Avec des lézards, des serpents, voilà, des crocodiles, des machins.
Voilà, et j'ai fini avec quelque chose d'assez sympa à la fin. J'utilise un petit peu ce que j'ai appris et j'apprends un nouveau métier, donc c'est cool. Et puis surtout, je fais ce que j'aime en me levant le matin et c'est toujours ce que j'ai voulu faire.
Ça change tout, hein, ça change tout.
C'est ça la vie d'Aloca, quoi. Et puis c'est tellement un kiff de voir Termito sur scène, El Micho sur scène. Moi, je suis un fan d'eux.
Oui, voilà, vous êtes fan de votre musique avant tout.
Voilà,
quoi,
mais c'est pas un trip, c'est pas un ego trip, hein, c'est que.
Dans les chevilles, ça va, c'est bon.
Des fois, en fait, j'écoute les morceaux et je me dis, parce qu'on a fait, on a composé énormément de morceaux avec Richard avant, avec Mitch dans nos anciens projets. Souvent, on faisait des trucs, c'était pas mal, mais machin. Enfin, on a composé des centaines de trucs, fusion, tout ce que tu veux. Donc, on avait une bonne,
avec
une
quel
bonne
groupe
habitude de ça.
Avec quel groupe?
Je sais pas.
Avec Monsieur Toc, Substance, Toc, voilà. Enfin bref. Et en fait, là, c'était la première fois souvent, en écoutant le morceau, je me disais, waouh, tu vois, c'était comme si c'était d'autres mecs qui l'avaient composé. Je me disais, putain, ça sonne, c'est mortel et tout.
Eh ben voilà, il faut ça, j'imagine. Voilà, au moins comme ça.
Et ça me foutait les poils. Tu vois, ça me foutait les poils tout seul quand je l'écoutais dans ma bagnole, quoi. Donc je me.
C'est
après,
bien, c'est
voilà,
un
bah,
signe.
Ça, si c'est ça s'est
signe.
Communiqué à d'autres personnes, tant mieux, tu vois. Mais je pense que c'est clair. Ça déjà, si ça te fout les poils à toi, c'est que t'es dans la bonne voie, tu t'en
et
fous.
Et les gens, ils sentent que vous emmerdez pas non plus à jouer, même sur scène, mais même en studio.
Ah, mais non, mais
et
puis toi, c'est un bonheur, quoi.
Puis toi, pour le coup, t'as intégré le groupe très très jeune, t'avais même pas encore 20 ans, je
19
crois,
ans.
19 ans.
Ouais. On a fêté ces 19 ans.
Voilà, et du coup, ça fait 10 ans à peu près, là, que t'es dans le groupe. Ça fait 10 ans.
Exactement.
Ça fait 10 ans que t'es dans le groupe, et
ça fera 10 ans pile en juin ou en juillet.
Donc en fait, ça fait 10 ans que tu t'éclates avec Loco Muerte.
Ah ouais, et puis c'est génial. Et puis aujourd'hui, vraiment, ouais, c'est. Comme tu disais, on est vraiment tous les jours dessus. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie
vidéo,
internet, etc., machin. Et vraiment, ouais, c'est un plaisir de le faire, quoi. C'est beaucoup de taf.
Partie vidéo, voilà. Toutes les caméras qui sont là.
Il est pas doué que au chant. Il est aussi doué beaucoup pour l'image, les montages et tout ça.
Les visuels.
Depuis
que t'as
14 ans.
Ouais, incroyable, quoi. Un autodidacte complet.
C'est que j'ai grandi dans une ère où on avait accès à un ordinateur assez vite, finalement. Donc, en fait. Juste le fait de vouloir faire les choses, ça te donne envie d'apprendre.
Bien sûr. Tout le monde n'y arrive pas. Il faut avoir un petit talent, effectivement.
En plus, il joue de la guitare, il joue de la batterie, il joue de la basse.
Il chante. Enfin voilà, c'est vraiment l'homme à tout faire.
Il est section, il termine.
J'aime pas trop m'ennuyer.
Il pourrait être le one man band Loco Muerte. Voilà, si vous êtes tous malades, lui, il peut tout faire.
C'est vraiment génial parce qu'il y a une super synergie hyper positive. Nous, on aime ça, l'onde positive. Et on partage le boulot, on travaille ensemble, chacun a ses tâches. Et puis voilà, on utilise les compétences de chacun. On apprend tous ensemble. On essaie de
DIY.
Rester super humble. Ouais, bah on vient
c'est
de
l'esprit DIY, do it yourself.
Mais comme Metallica.
Bien sûr, bah, comme tous ces groupes-là des années 80.
Tous ces groupes, ils viennent de l'underground. À l'époque, le trash, tout ça, c'était totalement underground. C'est pour ça que c'est marrant aujourd'hui d'entendre des gens de parler de Metallica comme un groupe, on va dire, commercial. Mais en fait, ils n'ont absolument pas cette approche-là, quoi.
Bah, en tout cas, au début, effectivement. Alors, comme pour les vrais groupes latinos, je mets des guillemets, la famille, le barrio, la communauté, c'est hyper important. Donc, pour vous aussi, est-ce que vous êtes surpris d'avoir réussi à créer une communauté, notamment la Brigada Nueve Uno, qui, du coup, compte une centaine... Voilà, la Brigada, qui du coup compte une centaine de membres, tu l'as dit, 120, et dont quelques-uns sont là ce soir. Ouais. Voilà, et notamment, bah, cette Brigada, elle vous a notamment permis d'atteindre 11 400 euros sur la campagne de financement participatif que vous avez lancée pour Parano Booster.
Exactement.
Voilà, est-ce que vous êtes surpris d'avoir créé cette communauté Et voilà, les applaudissements, évidemment.
Bah, en fait, ouais, c'est vrai que on a pris beaucoup de plaisir à la créer. Après, on pensait pas que ça aurait un succès aussi important, et surtout au-delà de la région parisienne, puisque bon, là, il y a quand même pas mal de gens de la région.
Forcément,
mais en fait, il y a des membres sur 25 départements.
25 départements.
Donc, et des fois, on va faire des concerts dans des coins où on n'a jamais joué avant, et il y a des gars qui viennent, nous voir en mode Brigada et tout, et c'est super. Donc, c'est vraiment ça où je te disais le côté Suicide Idol. Moi, je suis un fan de Suicide Idol depuis que j'ai 14 ans.
La famille.
Bah, en fait, c'est ça. Il y a des mecs que je connais que grâce à Suicide Idol. On se revoit à tous les concerts et on s'appelle, on est potes. Je trouve que d'arriver. C'est ce que Mike Muir a réussi à faire.
Chanteur
tu vois, toujours fédérer ces gens autour du groupe, quoi, dans son entourage proche. Comme après dans les gens qui suivent le groupe.
Bien
et
sûr.
Nous, c'est ça, il y a vraiment la famille sur scène, tous les gens qui nous suivent, et les gens aussi autour de la scène, comme Gornos qui fait nos clips, Greux qui fait notre son, Bubu, les Lofo, Phil de Lofo, voilà, j'étais encore avec lui.
Toute la bande qu'on a citée tout à l'heure.
C'est vraiment incroyable. Et puis après, tout un tas de gens qui sont venus dans le délire et avec qui on partage des putains de bons moments, quoi. Maintenant, c'est la fiesta à chaque concert.
C'est
quoi.
La fiesta et c'est peut-être la vida loca, puisque sur Los Clásicos de Locos, on trouve également un morceau inédit que vous avez enregistré pour cet album. C'est la vida loca. Il ne sera pas sur votre prochain album Parano Booster, mais c'est le premier nouveau morceau que vous avez sorti depuis votre troisième album en 2018. On va l'écouter. On se retrouve juste après pour la suite de l'interview où on va parler de votre prochain album Parano Booster. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de ZZ Top mardi 9 juillet au Zénith de Paris, offerte par Gérard Roux Productions. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande. Je tirerai au sort en fin d'émission. Tout de suite, la vida loca de Loco Muerte.
la puta vida loca.
La puta vida loca, loco muerte. Voilà, on vient d'écouter le morceau, voilà, on est dans l'ambiance, c'est parfait. Alors moi, dans ce morceau, il y a un truc que j'aime beaucoup, autre que la musique, qui est déjà hyper efficace, hyper groovy, voilà, qui reste en tête pendant des heures, c'est la mentalité des paroles. Et donc je vous laisse résumer ça, parce que je trouve la mentalité vraiment cool.
C'est ça, c'est ce qu'on vit là, c'est vivre la vie que tu veux vraiment vivre, c'est-à-dire être libre de faire ce que tu veux dans la vie. La pura vida, la vida loca, c'est un terme qui est souvent employé par les gangsters, Chicano et tout, parce qu'ils vivent au jour le jour et ils font vraiment
la
ce qu'ils
drogue,
veulent.
Les machins.
Mais en fait, nous, on n'est pas du tout des gangsters Chicano, mais en fait, c'est ce qu'on fait quand on se lève le matin pour faire Loco Muerte. Pour nous, c'est ça la vie d'Aloca, c'est pouvoir aller sur scène, pas aller dans un taf qui nous prend la tête, etc. Alors, ça a un coût, parce qu'on est obligé de bosser comme des malades et on n'aura peut-être pas autant de thunes, mais on s'en branle. L'histoire, c'est en mode, ah ouais, bon, on s'en fout de ce que penseront
non
les gens.
Importa, le final, ouais,
voilà,
peu
tu
importe.
Vois, en fait, peu importe ce qui va se passer, nous, on vit au jour le jour, tu vois, on se prend pas la tête pour ce qui s'est passé avant et on se prend pas la tête pour ce qui va se passer derrière, tu vois.
Et c'est ce que tu disais, c'est un peu la formule qui a fait que Loco Muerte a marché, c'est à partir du moment
le lâcher prise.
Où vous aviez abandonné les projets musicaux, vous étiez méga sérieux. Tu disais par exemple que dès qu'il y en a un qui faisait un pain, vous étiez en mode ça marche pas.
Bah comme tous les jeunes groupes où tu veux absolument machiner où tu veux absolument où tu veux absolument faire un truc super pour qu'on dise c'est super.
Voilà.
Et puis en vieillissant, t'en as plus rien à foutre parce que t'as passé d'autres caps dans ta vie, t'as eu des grosses galères, des trucs, t'as pris du recul et du coup t'es là pour t'éclater. Et au final, t'en as rien à foutre de mettre un pain ou pas. Ce qui est important, c'est ce qui est autour du pain.
C'est ce qu'il y a autour.
Et
tu vois, si tu t'éclates, les gens s'éclatent aussi.
Et en fait, c'est ça qui était génial parce que quand on a joué avec Suicidal, par exemple, on était juste heureux. On n'avait aucune pression. On n'était pas en train de se dire, ouais, les mecs, ils sont méga monstrueux. Il y a Thundercat à la basse et machin et trucs, tu vois. Et on a joué. En plus, ce soir-là, c'était une Infectious Groove. Et donc, du coup, on allait voir les mecs de Suicidal, notamment Mike Clark, avec qui on a passé pas mal de temps. Et on lui a demandé si on pouvait jouer à War in Samaed, qui est un morceau qui nous a énormément inspiré. Pas musicalement, enfin évidemment musicalement, mais surtout dans l'état d'esprit, quoi. C'est voilà, c'est quelque chose qui était fort pour nous. Et il nous a dit, mais mec, avec plaisir, ce sera un honneur. Et c'était ouf de jouer ça devant les fans de Suicidal. Et le cas est, mais on était en mode Awebo total. Et
Awebo.
Je pense que c'est comme ça qu'on peut être le plus heureux, tu vois.
Alors je précise, puisque tu ne l'as pas dit, mais Awebo, ça veut dire on s'en bat les couilles.
Ouais, c'est une expression mexicaine.
Plutôt à votre manière, Awebo, ça veut dire.
On s'en bat les couilles.
On s'en bat les couilles. Voilà, parce que vous faites tout le temps ça à la fin des interviews. Je sais que je l'ai pas préparé, celui-là. Voilà, vous faites tout le temps ça à la fin de l'interview. Je trouve ça plutôt cool.
Vrai,
alors c'est pas la fin de l'interview,
c'est
par contre.
C'est pour ça que ça nous a déboussolé.
C'est ça. Ouais, on est en plein milieu. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Tout était écrit. On avait tout calculé avec Loco Muerte. Tout était calculé, c'était écrit.
Oh, je tente des trucs des fois.
C'est l'heure d'un Webo.
Slayer d'y aller.
Oh, Slayer d'y aller, c'est pas mal.
Alors d'habitude j'ai un bracelet mousse avec marqué Slayer dessus. Alors, il y a Slayer d'y aller.
Slayer d'y aller. En tout cas, l'histoire de ce morceau, La Vida Loca, je la trouve super. Vous avez rencontré William Wolf à un concert, il est catcheur et donc il a une équipe qui s'appelle la Metal Mafia. Comme son nom l'indique, il est fan
de métal. Et de Suicidal Tendencies.
Et de Suicidal Tendencies. Et donc il vous a demandé de faire un son pour son entrée de catcheur. Vous avez accepté.
Exactement.
Et puis pouf, voilà, vous avez fait le clip qui est génial. T'as appris le catch, tu t'en es pris des belles dans la gueule.
C'est incroyable.
J'invite à regarder le clip puisque le clip est plutôt sympa. Voilà, vous avez fait comme Lemmy avec le morceau The Game et King of Kings pour Triple H. Et même un autre morceau qu'il avait fait.
Voilà, et on avait organisé une soirée. Et d'ailleurs, ceux qui sont venus nous aider et qui nous ont tendu la main, c'était le groupe Achiavel. On avait été mis en contact par Steph Bubu pour les avoir leur contact, parce qu'on cherchait un groupe qui pouvait ramener du monde qui était du sud, vu que nous on n'était pas du tout de là, pour avoir de la figuration autour du ring. Et très gentiment, ils ont accepté de venir jouer avec nous. On a fait un concert pour les gens qui étaient là et c'était vraiment mortel.
Super.
Et donc avec ce morceau, La Vida Loca, vous avez gagné la catégorie héros des triomphes du métal français en début d'année. L'émission du youtubeur Arthur Alternative. J'aime bien, c'est un peu comme les chiens de Pavlov. Dès qu'on entend on entendait yeah.
C'est ça la famille.
C'est génial. Et ça sature pas, j'adore. Donc je disais, voilà, cette catégorie, c'est les triomphes du métal français. C'est l'émission du youtubeur Arthur Alternative que je recevais ici même fin février. Donc je vous invite à aller voir l'émission de La Fosse numéro 42. Et donc La Vida Loca, c'est comme je le disais, le premier morceau original que vous aviez dévoilé depuis 2018. C'est un avant-goût du prochain album. Vous l'avez enregistré alors que vous prépariez ce nouvel album. Pourquoi il fait pas partie du nouvel album?
Bah parce que justement, on voulait quand même, pour les gens qui nous suivaient, il y en avait quand même un peu.
Ouais.
On voulait mettre un nouveau morceau.
Un petit inédit, ouais.
Et puis comme on vient de l'expliquer, bah on était en mode complètement lâcher prise. Enfin vraiment, tout ce qu'on dit dans la chanson, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on avait. Donc on s'est dit, on va le mettre sur Los Clásicos. Puis on avait vachement envie de le jouer sur scène et tout. On a pris plaisir à le composer.
Bah, il est hyper efficace et il marche super bien.
C'est notre morceau de fin de concert. C'est le morceau Abajo, Abajo, Abajo. Et puis une fois que ça repart, c'est toujours une espèce de shot d'adrénaline. Là.
Ça permettait d'avoir un titre inédit. En plus, on a eu l'opportunité de tourner ce clip qui était super fort. Ça faisait longtemps qu'on voulait se faire un truc en mode lucha libre et tout. Et là, on rencontre des catcheurs, tu vois, Estrella de la Suerte.
Ça tombait super bien. On voulait le faire déjà à l'époque de Rampfla.
Ouais.
On voulait déjà le faire. Comment ça s'appelait? C'était la lucha libre à Paris. Je crois qu'on voulait faire ça.
Ouais, exactement. Et
ça s'est fait 10 ans plus tard.
Incroyable. Et donc du coup, on était en plein mode compo à ce moment-là, donc on enquillait les titres, on était en phase de compo, donc on a choisi celui-ci. Et on avait déjà pas mal d'autres titres qui étaient composés, hein, qui étaient maquettés.
Il aurait pu faire partie du prochain album,
ouais, carrément, ça c'est sûr. Il était carrément dans le truc.
Alors je sais que La Vida Loca n'est pas le premier morceau que t'as écrit pour Loco Muerte, puisqu'évidemment t'as fait le troisième album en 2018. Mais du coup, toi, donc, comme tu le disais, t'étais fan de Loco avant d'intégrer le groupe. Ouais. Ça t'a fait quoi d'écrire le premier morceau pour un groupe dont tu étais fan du coup? Et t'étais super jeune en plus à l'époque.
Ouais, j'étais assez jeune. Alors après, c'était pas la première fois que je composais, mais alors composer en espagnol. Déjà, bon, je me suis tapé Duolingo du début jusqu'à la fin, histoire de me faire une petite remise à niveau de mon espagnol du collège. Il y a eu un espèce de process où au début c'était un peu compliqué parce que moi je viens surtout du néo-metal. Du Slipknot, du Korn, du.
Ce qui marchait quand t'étais au lycée ou quelque chose comme
exactement.
Ça, ou au collège.
Enfin. Ouais, c'est ça, quand j'étais vraiment jeune adolescent, c'était ça. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais déjà composé aussi pour Stormy, c'était mon alter ego. Mon
Alter Mito, mais d'avant, du coup.
C'est ça. et d'ailleurs, ça paraît pas, mais Termito, ça vient de Stormy. C'est Nico qui s'occupe du département.
Stormito,
surnom. Voilà, c'est ça.
Ouais,
c'est
Stormy,
c'est
Termito,
le département surnom, c'est Nico. Voilà, d'ailleurs, Elf Loco, maintenant, plus l'appeler comme ça, il faut l'appeler Moustachu.
Moustachu, d'accord, ça fait un peu moins.
Tiens, il y a une belle paire de moustaches, mais ouais, El Floco. Ouais. C'est toujours El Floco.
Voilà, et donc au début, je suis arrivé avec des trucs un peu trop néo-métal, puis après, les vieux, ils sont arrivés.
On travaille pas mal ensemble, je dis bon, on va écouter du reggaeton, tu vas voir. Regarde, écoute ça, regarde le flow, blablabla. C'est vrai qu'il avait un flow plutôt rock de base. Enfin, rock, metal, etc. Et puis on est allé un peu plus dans le côté hip-hop et reggaeton.
Il y avait déjà les petites racines mais rap, hein, parce que dans le new metal, à la Korn ou à la Slipknot, ça parle un peu vite aussi. Limp Bizkit peut-être aussi.
Carrément, c'est ce qui m'a, je pense, plu dans ce côté, dans Loco Muerte, en fait. C'est pour ça que j'ai accroché, même si c'est pas du new metal.
Oui, bien sûr.
Et ce qui était intéressant, voilà, c'était en fait la consigne, c'était de lui dire, écoute mec, il faut qu'on fasse les chants les plus anti-métal du monde.
Anti-métal.
Voilà, on voulait tout, mais pas du métal sur le chant.
Alors, tu petit... vois. Oui, vas-y.
Et en fait, on a vachement travaillé ensemble et on s'est bien éclaté. Et en fait, c'est hyper cool parce qu'il est tellement à l'aise qu'avec quelques indications, dès qu'il voit la voix, après il est lancé et
c'est drôle parce
c'est
que
la locomotive.
À chaque fois qu'on commence un album, je repasse par ce process parce que entre la phase de composition, une fois qu'elle se termine et une fois qu'elle se recommence, j'oublie un peu toute cette espèce de process
mentalité,
qu'on a mis
en
place, c'est ça.
Parce et du que là, coup, il y a eu beaucoup de temps, mais là, ça sera peut-être pas comme ça la prochaine fois.
Ça sera peut-être pas comme ça pour le prochain album, mais je me souviens que pour Parano Booster, j'avais perdu un peu le truc. Puis ensuite, une fois que les vannes sont ouvertes.
C'est revenu, il faut se remettre dans le délire.
C'est comme le vélo,
ça.
Comme le vélo, ça s'oublie pas.
Et même, je dirais, ça a été une phase 2 parce que pour avoir beaucoup travaillé avec Termito et l'avoir beaucoup écouté, il a mis la barre encore plus haut quoi, que la Brigada. Vraiment, il a tout ce qu'il avait engrangé, c'était là. Il a fallu réouvrir les vannes, mais là, c'était encore pire. Et il avait. Il a réussi à aller encore plus loin dans le flow et franchement tout ce qui est fait sur Parano Booster, c'est vraiment de la bombe.
On va en parler de Parano Booster. Juste avant, un petit passage auto-promo. Bah, je fais rapidement un focus sur un documentaire disponible sur la plateforme The Pit. Ça va vous plaire. Ça s'appelle Get Thrashed, The Story of Thrash Metal. C'est le documentaire ultime sur l'histoire du thrash metal américain.
Le thrash, c'est pour toi. Il est pas là ce soir avec nous, mais spécial dédicace à El Micho, le riche lieu du thrash metal.
Le riche lieu du thrash metal. Donc voilà, c'est un documentaire sur l'histoire du thrash metal américain et allemand, son explosion, sa rivalité avec la scène hardcore qui engendrera le mouvement crossover. Il y a des anecdotes inédites. Et évidemment, il y a aussi le déclin du thrash au début des années 90 face au grunge et au new metal. Voilà, en plus, on y revient, tu vois. Avant que l'héritage.
Le thrash est toujours là.
Et oui, avant que l'héritage du thrash ne se retrouve dans la scène metal moderne en général. C'est un documentaire que vous pouvez voir sur la plateforme The Pit, the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6€ par mois, 66,6€ par an. Il y a 7 jours d'essai offerts, c'est sans engagement. Il y a pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester. Qu'est-ce qui vous plaît dans le thrash et le crossover ?
Ça groove.
Ça groove.
C'est nous, on vient du groove. Tous, enfin, c'est toujours ça qui nous a plu, et bien sûr la puissance des riffs et le songwriting aussi qui est,
ouais,
qui
le
est
côté
vraiment
chanson en fait, c'est
super bon.
Il y a des refrains, c'est hyper
puis
important.
Et puis dans le thrash, il y a différents styles. Testament, c'est pas pareil que
Metallica,
évidemment que Exodus ou Violence ou voilà. Et bien sûr après le crossover, mais en fait, on écoute énormément de musique différente. Mais le point commun entre toutes les musiques qu'on écoute, c'est qu'elles groove.
C'est qu'elles groove.
Je pense que le swing, c'est universel. Pourquoi les gens adorent ACDC ? C'est parce que ça groove.
Ça groove. ZZ Top aussi.
ZZ Top, ça groove. Voilà. Slayer, ça groove.
Dès que t'as envie de battre de la boule.
Voilà. Exactement. C'est ça. Ça te fait, voilà. Airborne, ça groove. Tout ce qui a de l'énergie et qui swing, forcément, ça le fait.
Ça swing, ça groove, et voilà, donc c'est parfait. Et ben donc on va parler de votre prochain album Parano Booster qui sort le 27 septembre.
Oui,
on va pas trop en dire, enfin ça dépend, c'est vous qui choisissez. Donc il sort le 27 septembre. Tout d'abord, le nom de l'album, Parano Booster, ça vient d'où ? Ce qui est bien, c'est que je suis le premier à poser la question. Après, il y aura 10 milliards de questions qui vont la poser, mais je suis le premier.
Alors,
Pourquoi Parano Booster ?
Bah, en fait, quand on a commencé, on était en train d'écrire ce titre, Parano Booster, puisque c'est le nom d'un morceau éponyme qui va sortir d'ailleurs en clip le 21 juin.
Absolument.
On était dans le local, on était plutôt bien inspiré. Termito, il commençait à sortir des lignes de chant plutôt sympas en mode guacamole, parce qu'on fait souvent ça, sorte de yaourt mais en espagnol.
Ouais, bien sûr.
En fait, je lui dis, tu connais le film Las Vegas Parano ? Moi, c'est un de mes films préférés, quoi. C'est un film complètement underground, culte, qui a été boudé par les critiques à l'époque, mais en fait c'est un des meilleurs rôles de Johnny Depp, qui a influencé toute sa carrière, Pirates des Caraïbes, machin, toutes les gimmicks qu'il a, ça vient de ce film. Et il y a des scènes vraiment cultes, et je lui dis putain, il me dit bah non, on a commencé à regarder des scènes du film sur YouTube,
ouais,
et tout ça.
Je connaissais pas.
Voilà, et ce qui est normal parce que c'était pas du tout sa génération.
Ouais, il y a longtemps, mais je l'ai vu.
Donc il a trouvé ça super marrant et tout, le délire, et on est parti là-dessus, et en fait il a écrit des paroles par rapport aux meilleures scènes du film, quoi.
Ok, ouais, tous les morceaux sont par rapport aux meilleures scènes du film ?
Non, que celui-là.
Pas tous, ouais.
Mais c'est inspiré.
C'est pas un album concept.
Non, pas un concept album, mais par contre, il y a des lignes directrices qui sont la liberté.
Ah, j'allais vous demander, c'est quoi un peu l'univers ? Voilà, comment on résumerait cet album ? Donc
ça,
la liberté.
Beaucoup de drogue aussi.
La liberté et la drogue.
J'ai cru comprendre, ouais.
La drogue, alors nous, il faut savoir qu'on prend pas vraiment de drogue.
Non, on en prend pas.
J'aime bien le pas vraiment.
On en prend pas vraiment, donc c'est pour ça. Mais par contre, on trouve ça intéressant. Et en plus, t'as des drogues qui sont néfastes, mais t'as aussi des drogues, je considère que la musique est une drogue positive. Mmh. On est tous des drogués de musique. C'est
bien
pour
sûr.
Ça que toi, t'es là ce soir.
Bien
et que nous, on est là. Tu vois, c'est comme dit le docteur Laurent Carilla, c'est addiction positive, tu vois. Mmh. Et on est tous des addicts au métal ou à la musique. En fait, c'est ça aussi le fil conducteur du truc.
Ce que vous dites, c'est que, en fait, votre drogue, vous êtes des dealers, mais votre drogue, du coup, ce que vous vendez,
exactement,
c'est la musique.
On a même fait un morceau, le dernier morceau de l'album, il s'appelle Los Narcos. Donc, normalement, les narcos, c'est les narcotrafiquants, mais nous, on a repris un peu le concept du morceau des Zwinkels, de la bonne cam sous le saphir, où ils comparaient leur musique à de la drogue. Moi, j'avais trouvé ce morceau excellent et c'est exactement ce qu'on a fait. Notre but est de devenir les plus gros narcos de la crossover. en France, Chicano
Moche. Chicano Moche. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Demonios, où il y a Auré d'Achiavel, je crois, en guest. Du coup, on en parlait tout à l'heure, le groupe de Black Death français. Et donc, vous avez un passage un peu à la Slayer. Vous faites une référence à The Mask. Alors, je ne sais pas sur quel morceau.
Par c'est sur Los Narcos, ouais.
Los Narcos, d'accord. Et c'est quoi les autres inspirations, un petit peu, que ce soit pas musical, mais plutôt cinématographique ou autre? C'est quoi les petits clins d'œil qu'on peut trouver dans cet album?
91, c'est un énorme clin d'œil à Breaking Bad, et notamment dans l'épisode où il y a le groupe Los Cuates del Sinaloa, le groupe de Corrido, qui chante les louanges de Heisenberg et des cartels de la drogue. C'est vraiment des groupes qui existent au Mexique.
Ouais, y en a, ouais.
Et dans l'épisode, il y a un épisode qui commence avec le clip de Los Cuates où tu vois Heisenberg derrière. Et en fait, on en avait parlé avec El Termito et je dis putain, ce serait mortel de reprendre ça. Et au lieu de raconter l'histoire d'Heisenberg, on raconte l'histoire de Loco Muerte, quoi. Et en plus, on a des vinyles bleus, donc ça tombait bien, c'était à la couleur de la mette d'Heisenberg.
Ça fait un peu.
Et donc, il nous fallait un Heisenberg, et on a eu un Heisenblast.
Ouais. Parce que c'était Stéphane Burrier
qui a eu le même charisme que Heisenberg.
Il est tellement crédible en plus.
Ouais, il nous a fait le grand honneur, parce que franchement, voilà, il est vraiment tellement cool avec nous. Il n'était pas obligé d'accepter de venir dans notre clip, faire de la mette en slip dans une caravane, mais il l'a fait. Parce que c'est vraiment un grand monsieur.
Merci, et, el padrino.
Ouais, voilà,
il est pas ménagé en tout
fait,
cas.
C'est vraiment un putain de fan de musique. Et voilà, et il a été royal dans le clip, quoi. Et toutes les scènes où il sort avec le flingue et tout. Voilà. Donc allez voir le clip, il est vraiment cool.
Le clip dont on parle, c'est B91, oui. B9 voilà. Uno, le premier single de Parano Booster que vous avez sorti le 12
Exactement.
Avril. Et donc avec le clip. Un clip qui lance, je crois, une petite série de clips, non?
Exactement,
tout
oui.
À fait.
Puisque donc, en fait, on a essayé de faire une sorte d'enchaînement. Et bon, déjà, je voulais dire avant de parler du clip que c'est El Termito qui a composé toute la partie acoustique.
Ah oui,
vraiment,
oui,
les guitares et tout, c'est lui qui joue tout.
Pour les gens qui se demandent, on va l'écouter dans quelques minutes.
Ouais. Voilà, et en fait, c'est vraiment un hommage au corrido, enfin, ce style musical mexicain. Et on l'a transformé ensuite en mode locomuerte bien vénère. Et donc, évidemment, à la fin du clip, on a un petit passage vers Parano Booster avec une apparition de nous deux en Raoul Duke et Dr. Gonzo.
Et oui, voilà, on peut voir là sur la pochette. Tu peux montrer à la caméra. C'est la pochette.
Voilà. Voilà, donc.
La pochette du vinyle, Parano Booster.
Là, par contre, dans le clip qui va sortir le 21 juin, on a fait avec Gornos, il y a toutes les scènes cultes du film. On a essayé de les faire en s'éclatant le plus qu'on pouvait, mais le résultat, il est chamé.
Ouais,
on en est hyper content, on a trop hâte que vous le puissiez en profiter.
Est-ce que vous aviez un peu de pression par rapport au sentiment peut-être d'être attendu au tournant après ou de confirmer une tendance après l'année 2023
pas
qui a
tout.
Été trop bien pour vous voilà, est-ce que vous aviez un peu de pression sur ce nouvel album? Pas du tout.
On a zéro pression, on est en mode Awebo, quoi.
Surtout qu'on est très très confiant parce que c'est un album dont on est vraiment fier et on a juste hâte.
Ouais.
En fait,
ouais. Non, puis après, franchement, le jugement, on s'en branle. Tu vois, enfin, je veux dire, si tu veux être heureux dans la vie, il faut te libérer
c'est
du
ce
jugement.
Que tu disais tout à l'heure,
Exactement.
La vie d'Aloca, on s'en fout, etc.
C'est ça.
Et du coup, je lisais souvent que vous aviez hâte de sortir l'album parce qu'il est prêt depuis un petit moment, mais vous attendiez le meilleur moment pour le balancer. Il devait sortir en avril, bah, je crois, à peu près à cette période-là. Pourquoi septembre finalement, et pourquoi septembre, c'est le bon moment?
Parce qu'en fait, on en a discuté avec Chris, notre booker de Maximum Tour, qui nous a fait confiance et qui nous a pris. Dans sa team, et il est super content des retours. En fait, avec Los Clásicos, il avait déjà beaucoup de retours et de combinaisons de dates. Et les gens avaient envie d'écouter cet album et tout ça. Donc, il n'y avait pas de rush. Et plus on va pouvoir le balancer quand il y aura des gens qui nous connaîtront. C'était ça un peu le principe.
C'est un peu d'attendre, reculer pour mieux sauter, quoi, entre guillemets.
Voilà. Et
vous sautez souvent, en plus, sur scène.
Voilà,
oui,
on saute beaucoup. Ouais, ouais. On l'appelle Termito Liros.
C'est quoi?
Termito Liros, tu connais pas David Liros?
Ah, Liros, oui. D'accord. Je cherchais Liros, L-I-R-O-S, un truc espagnol.
Non,
voilà.
Non, mais il y a beaucoup de photos où il est en l'air en grand écart.
Oui, hein, t'es très souple d'ailleurs, effectivement.
Oui.
Ouais.
Oh, des fois, je me
casse un truc.
Trucs, mais bon.
Et ben, retourne au catch. Et ben, on va faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview. On va parler des concerts de Loco Muerte. On va continuer à parler un petit peu de cet album aussi. Il y aura également les questions flash et la chronique de Lolo du Hellfest Corner. Je l'ai vu arriver. Qui va vous parler d'histoire et de métal. Et je rappelle une dernière fois aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de ZZ Top.
ZZ Top. Voilà. ZZ Top.
Ah, ils étaient pas prêts. Le concert, c'est mardi 9 juillet au Zénith de Paris. C'est des places offertes par Gérard Rowe Productions. Il faut demander au barman un petit ticket pour chaque commande.
J'ai déjà mes places.
Ah, et voilà, il y a déjà ses places en face. Je tirerai au sort dans 15-20 minutes. Voilà, il vous reste plus beaucoup de temps. Et donc, on a parlé de Parano Booster, mais on a parlé surtout de B91, B9 Uno, le premier single que vous avez dévoilé le 12 avril. Et ben, on l'écoute tout de suite. C'est parti, Loco Muerte, B9 Uno.
Aïe, 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 aïe.
En el barrio 9-1 habían amigos deprimidos, sin trabajo y chicas malas, y así comienza la historia. En un sótano cantaron los primeros títulos que les trajeron la fama, que les trajeron la fuerza. Es el combo de Francia y su música abrasiva bajo una estrella de la suerte. Es el combo Loco Muerte.
¡Tan suerte por ese combo! ¡Te digo, hijo!
Hay el Nico con su bajo, su energía viene abajo. Hay el Micho y su guitarra y su onda satánica. Hay el Floco y el Termito que acaban de llegar. Había Mox y Divaldigo que debemos saludar. Es el combo de Francia y su música abrasiva bajo una estrella de la suerte. Es el combo Loco Muerte. Es el combo de Francia y su música abrasiva bajo una estrella de la suerte. Es el combo Loco Muerte.
Combo si Loco Muerte, avec B9 Uno. Et je suis toujours avec Nico Loco et El Termito, alias Raoul Duke et Dr Gonzo, Johnny Depp et Benicio Del Toro pour la dernière partie de l'interview. Si vous avez raté le début, l'émission sera en podcast à partir de demain midi, 13h à peu près, plutôt 13h, peut-être même 14h, sur tous les services de podcast existants ou presque, YouTube également, et en version vidéo d'ici la semaine prochaine, peut-être un peu après, grâce à El Termito. Merci encore. Et donc on vient d'écouter B9 Uno. On a parlé un petit peu de l'histoire de ce morceau qui ouvre donc votre prochain album Parano Booster qui sort le 27 septembre. C'était un petit peu aussi un hommage à l'histoire du groupe, hein, ce que vous disiez, voilà, vous citez tous les membres et vous dites que vous leur devez le respect, enfin voilà, en gros c'est ça, c'est un ça. Petit peu.
On raconte comment ça s'est passé, pourquoi on a créé ce groupe là, qu'on était en bas du bas et qu'on a fait ça pour s'éclater et que finalement on en a fait une famille et c'était cool.
Quelques années plus tard, voilà où on en est. Vous allez sortir votre quatrième album, votre nombre de fans augmente, vous faites des concerts sold out notamment à Paris Haute, vous enchaînez les festivals, enfin voilà, ça se passe plutôt bien pour Loco Muerte. Et c'est aussi un hommage un peu au 91, alors qu'il n'y a plus qu'un seul membre dans le 91.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, c'est là qu'on est né, alors on a de la mémoire chez Loco Muerte.
Bien sûr. Et donc on a parlé un petit peu, c'est le premier clip d'une série qui vont arriver et qui se suivent, c'est un peu le Loco Muerte Cinematic Universe, quoi, en gros.
Voilà, et puis donc on a vraiment hâte de sortir le clip Parano Booster parce que voilà, on adore ce film et puis on s'est vraiment éclaté. On a eu de la chance que El Termito il ressemble grave au Dr. Gonzo.
Heureusement que j'ai été obligé.
Moi j'étais obligé pour ressembler à Johnny Depp. Bon, je lui ressemble beaucoup, mais mais j'étais obligé de me faire une calvitie et tout ça au grand plaisir de ma femme. Son plus grand plaisir.
Voilà, on est investi ou on l'est pas.
Voilà, ouais, on l'a mis tout et on a.
Et
on
qu'est-ce qu'elle en pense de cette moustache?
J'ai envie de te dire, elle trouve ça vachement marrant parce que tous les matins elle rigole.
Alors El Termito,
alors
El Termito, j'ai lu donc notamment, je crois que c'est Nico qui disait ça en interview, que quand vous étiez en studio pour enregistrer cet album, donc avec Nico HK, au moment où toi tu enregistrais les voix, Nico regardait la tête de Nico HK du coup, et donc il avait une tête avec une expression genre putain comment il fait ça quoi, comment il arrive à chanter ça. T'as progressé niveau voix sur cet album, t'as travaillé pour, enfin voilà, comment tu l'as abordé
Ouais, écoute, si t'écoutes sur la Brigada et sur cet album là, il y a vraiment une différence au niveau du scream, au niveau de la voix, parce que j'ai trouvé une nouvelle façon de moduler ma voix, et surtout au niveau du flow, etc., on a vraiment pris le temps de choisir les bons mots qui s'enchaînent bien, qui sont faciles à mettre les uns derrière les autres,
à mettre du rythme et autres.
Facile, je dirais pas
exactement.
Ça quoi. Mais bon, non, pas, en tout cas qui fonctionne, mais c'était incroyable, et il a bossé vraiment hyper dur quoi.
Ouais,
hyper
carrément.
Dur.
Parce que mine de rien, on l'a pas dit, mais entre votre troisième album, La Brigada de los Muertos, et donc même Los Clásicos de Locos, hein, y a eu le Covid entre temps. Vrai qu'on l'a pas dit, mais voilà, il y a eu le Covid, vous aviez le temps de travailler. Enfin, j'imagine que tu as mis aussi à profit ce temps-là. Non, même pas du tout.
Non, on a commencé après, en fait, à se remettre vraiment dedans. Quoi.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu l'arrivée de El Floco qui se passait
en 2020. On a vraiment, à la sortie du Covid, on était vraiment vénère. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on y va à fond. Et puis, voilà, on s'est remis à composer à donf et tout ça. Et c'était vraiment hyper cool. On a été vraiment à fond au niveau du flow d'El Termito. C'était hyper précis, son travail, au niveau des paroles.
On sent une progression. Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti vraiment une diff. La Vida Loca, on peut le voir aussi. C'est-à-dire, c'est un peu ça aurait pu être sur cet album, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est un peu le nouveau Loco Muerte, voilà, plus fort, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des morceaux qui vous ont challengé particulièrement sur cet album?
Oui.
Ouais. Il y en a eu. Bah, le dernier dont on parlait, là, Los Narcos, le dernier album qui va clôturer l'album. On a essayé de faire un flow à la Calle 13. C'est un groupe très, très connu.
De
reggaeton. Ouais. Donc, c'est pas reggaeton dansant, machin, vraiment reggaeton un peu énervé avec des paroles, des trucs comme ça.
Super paroles.
Et on s'est vraiment dit, vas-y, on essaie de se faire un truc comme ça. Donc, on est vraiment sorti des sentiers battus. Mmh. Et c'était sportif.
Il y a plein de passages, hein, même sur Demonios. Il fait des flows de malade. Notamment sur un passage vraiment vénère où il est en flow reggaeton alors qu'on est en mode vraiment Slayer.
En termes de rythmique, ouais.
Voilà, et sur le couplet aussi. Enfin, il y a énormément. Moi, je suis hyper fan de ce qu'il a fait. Et les paroles sont super. Et tout, les titres sont vraiment bien. Et Demonios, on va tourner le clip dans pas longtemps.
C'est le troisième clip que vous allez dévoiler.
Avec Auré d'Achiavel qui va être dedans. Donc c'est une petite exclu. Il sortira le 13 septembre.
Le 13 septembre, absolument. Voilà. Le 21 juin pour Parano Booster et le 13 septembre pour Demonios.
Et là où on voit que Loco Muerte, de toute façon, c'est que sincère et c'est vraiment. Du brut, du fond du cœur, c'est que en fait tout ce qu'il est capable de faire au chant, il le fait en live. Quoi.
Oui, il n'y a pas
d'artifice, de studio, c'est pas des, il a pas repris les trucs plus lents ou machin. Et on va le prouver parce qu'on va les jouer sur scène, bien sûr. Et surtout, le 18 mai, on se fait un plaisir.
J'y arrive.
Je vais trop vite.
Je vais en parler dans deux secondes. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez passé un cap, Loco Muerte, avec cet album? Est-ce que c'est. Voilà, c'est.
Je pense que c'est pas un cap, c'est plus un développement naturel. Okay. En fait, c'est ça qui est vachement dur dans la carrière d'un groupe, c'est d'arriver à pouvoir garder ta sauce. Sans te répéter tout le temps.
Et en évoluant, c'est un peu difficile en plus dans
C'est hyper dur.
Ouais.
C'est le plus dur. C'est dans toutes les carrières de groupe, c'est d'arriver comme Slayer à garder ton son pendant 40 ans. mais ouais. quand t'écoutes Repentless, ça démonte tout, quoi.
Bien sûr,
ou tu vois. Comme un Motorhead ou un
ouais,
Asdes,
voilà,
qui n'ont jamais déçu leurs fans, entre guillemets.
Donc c'est pas une comparaison, bien sûr, mais c'est ce qu'on essaye de faire. C'est qu'on veut garder notre salsa, on n'a pas envie de faire un truc qui soit différent avec des mélodies ou je sais pas quoi. C'est vraiment garder ce qu'on sait faire, mais en poussant, repoussant les limites, en ayant des idées.
Moi, je trouve que tous les morceaux, ils ont des refrains hyper mémorables. Il y a des punchlines de fou, enfin, il y a des riffs de malade. Donc, bah, bravo.
Ah, merci.
J'ai grave kiffé cet album. Et bah, j'ai hâte pour vous que le public le découvre. Et donc, transition parfaite, on va parler de vos concerts. Vous jouez dans deux jours, le 27 avril, au festival In Your Fest à Torigny sur Marne.
Blast avec Lord Blast, avec El Padrino.
El Padrino, Steph Burier. Donc, à Torigny sur Marne. Le 4 mai, vous serez à Lome. C'est le festival Furious Circus à côté de Lille. Le 18 mai, donc voilà, je t'ai coupé. Le 18 mai, vous organisez deux événements promo. L'après-midi du 18 mai, vous serez à l'empreinte de Savigny-le-Temple pour The Parano Booster Experience. Pour des invités VIP, médias, pro et fans, voilà. Vous allez jouer l'album live
et d'ailleurs,
en entier.
Et ouais, exactement. Donc on va immerger les gens dans l'univers de Parano Booster. C'est-à-dire qu'on va vous montrer tous les visuels. Voilà. Alors je précise que c'est un événement privé sur invitation. D'ailleurs, actuellement sur notre Facebook, on fait un concours.
Il y a un petit jeu concours.
Où vous pouvez gagner des passes VIP. Par tirage au sort en répondant à une question qui est: que dirait Raoul Duke et le docteur Gonzo en arrivant à un concert de Loco Muerte en rentrant dans le pit?
Voilà. Donc vous pouvez jouer sur le Facebook de Loco Muerte.
Et le début, l'indice, c'est: d'où Jésus, il va nous falloir des
chaussures.
Chut. Faut pas le dire.
Bah mais ça, je l'ai vu passer quelque part, donc vous avez déjà mis la réponse quelque part.
Ouais, bah oui, bah c'est pour voir si tout le monde suit.
D'accord. Mais je
dis rien. Immerger les gens dans notre
truc. Je dis rien, j'ai failli tout gâcher.
Et donc, on va aussi présenter le clip Parano Booster en avant-première. On va faire une conférence de presse et on va faire goûter.
Dégustation.
Voilà, une dégustation de notre bière Loco Muerte.
Chicago Mosh Beer.
Voilà, en partenariat avec la brasserie Bulldog. Les mecs de Bulldog, qu'on salue bien. Wouh, Bulldog.
Donc ça, c'est le 18 mai après-midi. Et le 18 mai au soir, vous serez ici au Hellfest Corner.
Casa Bonita.
Exactement, pour une soirée de lancement de la fameuse bière Loco Muerte.
Venez
Chicago Mosh Beer. Avec du coup la Bulldog, donc la brasserie La Bulldog. Alors après ça, vous avez beaucoup...
Une cerveza muy savourosa.
Cerveza. Alors, après ça, vous avez beaucoup de dates de concerts prévues. Je vais aller très vite. Le 19 mai, vous serez à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, au Bestial Fest.
Oui.
Le 1er juin, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Si on cite tous les groupes qui sont avec vous, on n'est pas fini. Le 1er juin à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée au festival du rock dans le Pré. Le 7 juin au 8 Ball Studio à Villenoy, c'est en Seine-et-Marne. Le 6 juillet à Caudry au festival Les Chariots Furieux, ça c'est dans le Nord. Le 11 août à Sercou au festival 666 en Charente-Maritime.
Avec Testament.
Avec Testament, effectivement.
Testament, yeah.
Vous serez aussi le 25 août à Saint-Flour dans le Cantal au Furious Fest.
Avec Mass Hysteria et Tara.
Avec Mass Hysteria. Vous serez le 7 septembre à au Mency Metal Fest au 91, l'Essonne. Ouais. Voilà, le Barrio Nueve Uno. Le 21 septembre à Ambérieux, en Bugeo, Triplette Social Club, ça c'est dans l'Ain. Et le 19 octobre à Aigrefeuille-sur-Maine, le festival Rock en Maine, en Loire-Atlantique. C'est déjà pas mal, mais j'imagine qu'il y a d'autres concerts qui vont arriver. Ouais. Voilà, notamment des salles, notamment peut-être Paris, vous allez revenir. Voilà,
exactement, on va revenir. Comptez sur nous à l'automne pour la release party de Parano Booster qui va être muy brutal. Ouais.
Donc le 27 septembre.
Je pense
septembre,
que vous n'aurez jamais vu ça. Vous allez voir des trucs pendant ce concert.
C'est vrai.
Qui vont être vraiment mouis hallucinogènes.
Et ben voilà,
ça va être le Bazooka Circus.
Le 27 septembre, donc la release party. Enfin, j'imagine que ce sera dans ces zoos-là.
En octobre, début octobre.
En octobre, d'accord. En octobre. Alors moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions flash. C'est, vous avez fait un crowdfunding donc, pour cet album Parano Booster. D'accord. Et dans ce crowdfunding, donc, vous avez eu 11 400 euros sur les 10 000 normalement donc, que vous attendiez. Vous avez eu 11 400 euros. Vous disiez que si vous atteignez 15 000 euros et plus, vous pourriez réaliser votre projet loco numéro uno. Ah oui. Partir tourner un clip à Venice Beach à Los Angeles.
Exactement.
Rencontrer le groupe de Luigi Mayorga, qui est le premier bassiste de Suicide Doll Tendencies, qui soutient Loco Muerte. Et donc faire aussi un petit reportage vidéo exclusif sur tout ça. Mmh. Alors bah, vous n'avez pas atteint 15 000 euros, vous avez atteint 11 400 euros. Ouais. Est-ce que vous allez le faire quand même?
Bah, on va le faire quand même. On va se débrouiller, on va vendre plein de merch. Achetez-nous plein de merch pour qu'on puisse partir à Venice
t-shirt,
Beach.
T-shirt.
Plein de merch, plein d'albums, plein de concerts. Enfin voilà, allez-y quoi. Ok.
Et surtout, bah voilà, on va essayer. Alors, je veux pas m'avancer, je veux pas qu'on me dise ouais, il avait dit ça et tout. Mais en fait, notre rêve vraiment, c'est d'arriver à faire venir Luis Idol, parce que actuellement dans Luis Idol, il faut savoir que en plus de Luigi Mayorga, qui est le bassiste originel, il y a l'incroyable Mike Clark, qui est voilà le guitariste incroyable de Suicidal. Rocky George, bien sûr, un des plus grands solistes de tous les temps et super underrated, comme disent les Américains. Le plus sous-estimé des guitar héros, de mon point de vue. Et R.J. Herrera à la batterie. Donc en fait, il y a tout le line-up original de Suicidal, à part Mike Muir.
Ouais, c'est quasiment et Suicidal, finalement.
Voilà, et il joue, c'est Ocho Mondoa au chant. Et en fait, bah ils reprennent tous les titres jusqu'à I Will I Low quoi. Et
tout
c'est
ce qu'ils ont joué, tout ce qu'ils ont composé.
Ils en mettent plein. Allez voir ça sur le net. C'est impressionnant quoi. Et ça serait un truc de fou d'arriver
les faire tourner,
d'arriver les faire venir et jouer avec eux. Je pense que tous les fans français de Suicidal retrouveraient leur leur origine, leur âme d'origine en voyant ça.
Bah moi ce que je vous souhaite, c'est que eux fassent votre première partie du coup, si ça se passe.
Bah écoute, on verra bien, là on s'en fout. De toute façon, dans un sens comme dans l'autre, ça va être avant putain ou après, mouille brutal.
Bon, voilà, bon, on espère, on croise les doigts. Alors c'est presque la fin de cette interview. Avant de se quitter, on va passer une petite série de questions flash. Woohoo. Concept est simple, c'est une série de questions plus ou moins intéressantes.
Ok, cool.
Qu'est-ce que vous chantez sous la douche?
Nous on baisse sous la douche.
Ah, je gueule en général, je me chauffe la voix.
Tu t'échauffes la voix. Quel est l'album qui vous a le plus marqué?
Like Camera Revolution de Suicidal Tendencies.
L'album Slipknot par Slipknot.
Slipknot de Slipknot.
Après, bon, il y en aurait plein en fait en vrai. Mais,
ah, je sais, mais voilà, faut essayer d'en garder un. Vous avez répondu assez vite, donc on va garder cela. On vous demande souvent c'est quoi votre meilleur souvenir de concert. Moi, je vous demande c'est quoi votre pire souvenir de concert.
Je veux dire en tant que...
Ah, ça peut être en tant que spectateur ou en tant que Loco Muerte, ça dépend.
Ah,
se mettre à dos les organisateurs?
Non, pas du tout, mais...
Vous n'êtes pas obligé de dire où c'était. Vous pouvez dire...
Non, mais en fait, je me rappelle...
Question flash, question
en fait...
flash.
Non, justement, prenez votre temps.
Non, mais c'est pas ça, c'est en fait, non, mais un des pires souvenirs que j'ai, c'était avec un des groupes que je préfère, c'est avec Lofofora. En fait, sur le deuxième morceau du set, on était à bloc et j'ai eu plus de son de basse.
Ah ouais?
Plus de son. Et en fait, El Termito a commencé à sauver la situation avec Mitch et tout ça. Ils ont continué là. Et en fait, j'avais vraiment une grosse panne. Et moi, sans mes lunettes, j'y vois que dalle. Et heureusement, il y a Phil Delofo qui est arrivé à la rescousse. Il a ouvert ma basse et tout ça. Il a vu que c'était la prise jack qui merdait. Il me l'a remis. J'avais même pas de basse de spare ce jour-là. Et moi, je suis gaucher avec un accrédat. Donc, impossible
d'avoir une basse de secours.
C'était baisé, quoi. Si ça repartait pas, on l'avait dans l'os. Il fallait que je fasse toutes mes lignes de basse à la bouche.
Bah, ça fait très les nuls. Voilà, les nuls.
Voilà. Et en fait. C'est hyper flippant quand ça t'arrive. Tu sais, c'est des rêves de musiciens. On fait tous des rêves d'angoisse comme ça, où t'arrives, il y a un concert blindé, et puis t'arrives, et en fait, ton ampli, il est tout petit, ou alors t'as pas de jack, ou ta batterie, elle est dans les fly, ou je sais pas quoi. Bah, là, c'était pareil, sauf que c'était vrai. C'était pas un rêve.
Ça, c'était pas un rêve.
Moi, ce qui m'est arrivé, c'était il y avait pas très très longtemps, j'ai fait une soirée avec des potes en mode Hot Ones. Je sais pas si tu vois l'émission.
Ouais, tout à fait.
Avec les sauces piquantes. On a fait de la sauce la moins piquante à genre 2 500 de Scoville. Et la veille d'un concert. Donc, tant te dire que, ouais, le concert, je suis allé aux toilettes une bonne dizaine de fois.
Il y a toujours des idées à la con.
Ouais, mais ça...
J'ai toujours 19 ans.
Dans la merde.
Ça fait très chicano. Ça fait très chicano. Voilà. Un mot pour décrire Loco Muerte, je sais ce que vous allez dire.
Ah ouais, bon.
Ouais. Bah oui, ouais, pour moi, c'est ça. Ça
c'est vraiment le plaisir, la liberté.
La liberté. À quoi vous êtes accro, puisque du coup vous prenez pas vraiment de drogue? À quoi vous êtes accro?
La musique, le plaisir d'être ensemble, partager la musique.
J'irais le plaisir de façon générale.
Le plaisir d'une manière générale.
Plaisir.
Vous êtes plaisir sain.
Le plaisir sain. Vous êtes plutôt los Lilliputianos ou les Loco Muerte?
Un peu des deux.
Un peu des deux, vu qu'on dépasse pas les 1m30.
Ouais. Quand on joue dans des festivals de black metal suédois, on est un peu emmerdé, quoi. On a l'impression d'être des hobbits.
Dixit, la photo, le photomontage.
Est-ce qu'il y a un documentaire rock ou metal qui vous a particulièrement marqué, touché, inspiré?
Carrément, Lemmy.
Lemmy, le documentaire sur Lemmy.
Le documentaire Lemmy. Et hier soir, j'ai vu un documentaire sur la New Wave of British Heavy Metal où il y avait Lars Ulrich qui, évidemment, était dedans. Il parlait de Diamond Head et tout. Il racontait son histoire, quoi. Il est parti voir Diamond Head à 17 ans en Angleterre tout seul et qu'il a dormi une semaine chez le guitariste. Et en fait, dans le reportage, tu as la lettre qu'il avait écrite au guitariste de Diamond Head en lui disant ouais, « Ça y est, maintenant, j'ai monté mon groupe. Ça s'appelle Metallica. On travaille tous les
c'est
jours.
Génial.
On joue 6 jours par semaine. On répète 6 jours par semaine. Ça, on commence à devenir plus carré et tout. » Et j'ai trouvé ça génial. Ça montre à quel point ce groupe, c'est des fans de musique et qu'ils sont toujours donnés à mort pour faire un truc mortel. Et ils ont réussi.
Ouais. Ils ont vraiment beaucoup réussi. Et toi, est-ce qu'il y en a un ou pas forcément? S'il n'y en a pas, c'est pas grave.
Non, pas spécial. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de reportage.
Pas de souci. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, la folie ou la mort?
La folie.
Ouais, la folie. C'est vrai que la mort, c'est terminé tout de suite.
La mort, sens rien, tu vois. Ouais. Une fois que c'est fini. Les gens, ils flippent de la mort, mais c'est pas la mort qui est flippante, c'est la maladie.
Effectivement.
Et je suis resté un peu dans un hôpital psychiatrique et je peux te dire que c'est flippant, quoi. Ouais.
Une question pour El Termito, les démons de minuit ou Loco Muerte?
Loco Muerte. Je sais pourquoi tu dis ça.
Ouais, ouais. Quel est le truc le plus étrange qu'un fan vous ait dit?
Enfin.
Quel est le truc le plus étrange qu'un fan vous ait dit?
Hey, chanteur, beau gosse. Hey, chanteur, beau gosse.
Plusieurs fois.
Plusieurs fois.
Ouais,
voilà, délicat.
Moi, c'est plus. Mais vous êtes pas mexicain? Non. Voilà.
Bah voilà.
Allez, salut.
Salut.
Ah bon, ok.
Quelle est la reprise que vous aimeriez jouer avec Loco Muerte?
Bah, un petit War Inside My Head.
Ouais, War Inside My Head, ouais. On l'avait fait à l'époque, mais on l'avait fait en anglais, tu vois, avec Nox. Là, ça serait cool de le faire en espagnol.
En espagnol.
Carrément. Ou Ariana Grande.
Ariana Grande, oh là, ouais, c'est un autre registre. Ou Shakira, parce que je crois que t'as mis une petite.
Shakira,
ouais. Vas-y, on se fait un petit Shakira.
Surtout, ne faites aucune recherche sur Loco Muerte, Termito, Shakira, des trucs comme ça sur le net.
Quel est votre morceau préféré de votre futur 4e album, Parano Booster?
Waouh, c'est dur de choisir entre tous tes enfants.
Ah ouais, c'est ça.
Moi, j'aurais dû dire la petite Sophie, mais. non, elle avait de beaux cheveux. Mais. Non, mais.
Ça se joue entre les trois. Entre les
ouais,
trois premiers.
Ouais, il y en a beaucoup, mais. Bon, Parano Booster, parce que.
Et puis moi, je veux dire Démonios pour qu'on ait les deux.
Parano Booster, je pense que c'est un. Putain de morceau de Chicano Moche, il y a tout ce qu'il faut dedans.
C'est pour ça qu'il donne le titre à l'album, j'imagine
on a trop hâte de le jouer sur scène.
Dernière question, pourquoi faut-il écouter cet album Parano Booster?
Parce que ça va te mettre la onda positive, va te mettre le sourire dans ce monde de merde.
Mm-hmm, exactement.
Moi, je croyais que quand vous parliez de onda, je croyais que vous parliez des bagnoles. Moi, c'est pour ça.
ou de moto, pour ceux.
De moto, effectivement.
Et sont moins Fast and Furious, mais toi, t'es plutôt branché au Fast and Furious.
Visiblement. Et ben, merci beaucoup les Loco Muerte d'avoir été avec
nous.
Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission ce soir. Je rappelle que votre album Best Of réenregistré Los Clásicos de Locos est sorti en avril 2023. Votre 4e album Parano Booster arrive le 27 septembre. Et vous avez pas mal de concerts prévus cette année. Plein d'autres annoncés. Voilà, venez. Merci beaucoup, à très bientôt. Cette interview est terminée, mais pas encore la fin de cette émission, puisqu'on va passer à la chronique de Laurent Rossi, alias Lolo du Hellfest Corner.
Une fois par mois, Lolo du Hellfest Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux.
Et bonsoir Lolo, comment ça
va ? Bonsoir, très bien.
Tu t'entends bien comme d'hab ?
Ça va, je m'entends bien.
Ouais, ça va, tu t'entends bien. Eh bien voilà, je rappelle aux auditeurs que tu présentes une chronique une fois par mois ici, lors des émissions spéciales au Hellfest Corner. Et ce soir, tu as décidé de nous parler de métal et d'histoire avec un grand H.
Oui.
Vas-y, tu peux y aller, c'est bon.
Non, en fait, tout a commencé parce qu'en ce moment, je bloque complètement sur le nouvel album de Seth.
Groupe de black metal français.
Groupe de black metal français, dont le nouvel album sort le 14 juillet, et c'est pas pour rien parce que l'album traite de la Révolution française.
La France des maudits, il s'appelle.
C'est ça, La France des maudits, et il est extraordinaire, et je bloque dessus.
Je crois que tout l'album est centré sur la Révolution.
Ouais, c'est ça. Absolument, sauf le dernier titre qui est une surprise, qui est une reprise.
D'accord, j'ai pas écouté l'album, j'ai juste vu leur petite présentation qu'ils ont lancée, puisqu'ils ont dévoilé le premier extrait il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait, la semaine dernière.
La semaine dernière.
Et en fait, forcément, ça m'a interrogé, parce que je me suis dit, quel autre style de musique ? On parle d'histoire. Et je me suis demandé quand est-ce que ça avait commencé. Alors, on peut reprendre Black Sabbath avec War Pigs. Surtout, on va dire que c'est Saxon avec Crusader. Après Iron Maiden avec SSI et le Power
et puis,
Slave, etc.
Ouais, et puis de toute façon, ils chantent beaucoup aussi sur l'histoire, etc. Ouais.
Voilà, ou des groupes comme Sabaton.
Et Sabaton aujourd'hui qui ne parle que de ça.
qui ne parle que de ça. Ou Minenwerfer dans le black metal. Marduk. Victoria parle que de ça. Panzer Division Marduk aussi. French Fine aussi. Bien sûr Cannon and Fever, enfin voilà. Et j'ai envie de te dire, même un groupe comme 1349, enfin 1349, personne ne sait d'où vient le nom, mais en fait c'est la date où la grande épidémie de peste a atteint la Norvège.
Donc c'est un groupe norvégien de black metal. Ouais, et il y a aussi un autre groupe qui s'appelle 1914, et là j'imagine que ça vient de la Première Guerre
ukrainien
mondiale.
Et ça vient de la Première Guerre mondiale. Et où tu peux citer Forteress.
Forteress. Vois,
qui, des Québécois qui reparlent de la révolte. Des Québécois justement, d'où vient le jeu, me souviens. Et je me dis, mais dans quel genre de musique finalement l'histoire prend autant de place? Et il n'y en a pas. Et c'est un côté étonnant, mais ça peut expliquer certaines dérives. Si on prend le cas des Norvégiens par exemple, avec cette redécouverte du paganisme et de la culture viking, et donc du mythe viking, ça a commencé très tôt hein, avec Enslaved, puis avec Bathory également. Effectivement, ça s'est très vite retrouvé comme une sorte de guerre en fait entre les religions d'Orient et la religion originelle européenne. Beowulf, qui est Wotan, donc le mythe mer germanique, l'équivalent d'Odin en germain, est dans le même credo. Et effectivement, ça peut expliquer certaines dérives,
notamment dans le black metal. Hein.
Dans le black metal,
petite dérive un peu à droite, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça.
Un petit peu identitaire, mais en même temps, c'est, je trouve le phénomène assez fascinant parce que c'est aussi une ouverture à la réflexion. Et je ne sais plus qui a dit que ignorer l'histoire, c'est se condamner à la répéter. On va dire que les métalleux sont plutôt plus préservés que les autres.
Effectivement, et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Le métal s'y prête bien, je trouve qu'il y a pas mal de styles de métal qui s'y prêtent, puisque l'histoire, souvent, si on raconte des guerres ou des batailles, etc., c'est un peu épique, et donc ça colle bien au power metal, au heavy metal, et à plein d'autres genres en général. Slayer, qui a parlé notamment aussi des expériences des nazis, etc., donc voilà, là c'est dans un style...
Warfare.
Voilà, dans le black metal...
Angel of Death aussi.
Ouais, Angel of Death, etc., et du coup, ça s'y prête dans plein de style différent en fait finalement.
Ouais tout à fait. Et
je sais pas d'où ça vient, faudrait que les chercheurs se penchent dessus.
Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus que forcément les guerres.
Non, bien sûr.
Ça peut être les épidémies, ça peut être d'autres phénomènes. Si on prend un groupe comme Véhémence, ils traitent on va dire de la paysannerie médiévale. Voilà, c'est assez étonnant et je me demande d'où vient cette appétence.
Est-ce que les groupes de métal seraient un peu plus historiens que les autres groupes d'autres styles? Je sais pas. Faudrait faire des études là-dessus, je pense vraiment.
Possible. Et ouais. Ce qui est étonnant aussi, c'est l'appropriation de la mythologie égyptienne, par exemple.
Absolument, il y a des groupes de métal.
Celtic Flesh, ouais. Nil. Voilà. Et là, pour le coup, c'est la mythologie, c'est pas l'histoire.
Bien sûr.
Mais c'est assez étonnant aussi, cette appropriation culturelle.
Et ça colle bien au métal, ça je trouve, je sais pas, je trouve que voilà, chanter sur des mythologies, sur de l'histoire et tout, ça passe très bien et
dans
différents styles. Voilà.
Tout à fait, et puis je pense également, et pour le coup c'est identitaire, pas dans le sens, on va dire facho du terme, c'est définition de l'identité, mais la démarche d'un gars comme Black Bread par exemple, qui est un Amérindien qui fait du black metal,
en utilisant l'année dernière.
Hellfest, qui utilise des instruments traditionnels de sa tribu, etc. C'est une forme aussi de réappropriation culturelle. Wardruna, c'est un peu la même chose.
Heilung, Skald en France, Ravengrimmer, enfin voilà, il y a plein de groupes dans cette mouvance folk aussi.
Et pour le coup, je trouve ça très étonnant et très intéressant. Et c'est un phénomène qui sociologiquement serait intéressant à étudier, dans le sens où effectivement. Il n'y a pas ça dans le rap, il n'y a pas ça dans la pop. On va retrouver les mythes germaniques dans les opéras de Wagner.
Et pas autant. Oui, je parlais dans la pop actuelle.
C'est un mythe, c'est pas de l'histoire.
Ouais, bien sûr.
L'histoire aussi, tu vas retrouver chez Gounod dans Faust, hein, ouais. Ô gloire ancestrale de nos aïeux. Mais voilà, il y en a assez peu.
Ah oui, effectivement. Et ben voilà, l'appel est lancé, il faut faire des études là-dessus. Pour revenir à 7, qui du coup était un peu le lancement de cette chronique, à 7, j'ai hâte d'écouter cet album parce que voilà, le premier single est plutôt sympa à voir, puisqu'ils ont fait très fort avec La Morsure du Christ, leur dernier album, à voir ce que ça va donner.
Pour moi, c'est La Morsure du Christ était déjà un grand disque.
C'est encore mieux.
C'était pour moi, après les blessures de l'âme, forcément le meilleur album de 7. Et là, je trouve qu'ils ont encore passé un niveau. Ils vont me détester, ils vont me gueuler dessus. Mais le deuxième titre de l'album, c'est une reprise de Gainsbourg.
Oh là là, d'accord.
C'est incroyable.
Ah voilà, c'est en exclusivité. Voilà, c'est que ceux qui regarderont cette émission qui auront l'info. Et ben voilà, peut-être que le disque sera dispo au shop du Hellfest Corner. Je ne sais
absolument
pas. Absolument. Absolument. Et ben merci beaucoup Lolo. Je rappelle que tu interviens donc dans cette émission une fois par mois au Hellfest Corner. Un mot justement sur le programme du Hellfest Corner qui a pas mal d'événements prévus dans les prochaines semaines. Je vais pas pouvoir tout dire. J'ai fait une petite sélection. Demain soir, vendredi 26 avril, le groupe de hard rock Arch sera en concert acoustique dans le bar à partir de 21h. Samedi 4 mai, il y aura un blind test spécial Star Wars à partir de 21h aussi avec des choses à gagner. Je n'ai pas toutes les infos, mais May the Force be with you, voilà, pour les participants. Mercredi 8 mai, c'est la Hellbrock, la brocante de l'enfer. Voilà, vous avez tous un t-shirt ou un disque à vendre ou à acheter. Bah, vous pouvez chiner, troquer, vendre. Mercredi 8 mai à partir de 15h. Pour être vendeur, il faut s'inscrire par message privé ou auprès du bar, hein, je crois. Voilà, j'ai bien fait mon travail. Vendredi 10 et samedi 11 mai, vous pourrez vous faire tatouer au Hellfest Corner par Asphyx lors de deux Tattoo Flash Days à partir de 17h le vendredi et 15h le samedi 11 mai. Il y a plein d'autres événements à venir au mois de mai, j'en parlerai dans mes prochaines émissions, mais vous avez toutes les infos sur le Facebook du Hellfest Corner. C'est la fin de cette émission spéciale au Hellfest Corner justement. Le podcast sera disponible demain vers 13h sur tous les services de podcast existants ou presque. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Vous vous abonnez pour ne pas rater les prochains épisodes, blablabla, je le dis chaque semaine. Les épisodes sortent chaque vendredi et la version vidéo d'ici quelques jours, la semaine prochaine peut-être celle d'après, grâce à El Termito. La semaine prochaine ce sera une émission classique en studio. Je recevrai Furies, le groupe de heavy metal qui a une nouvelle chanteuse, a sorti 3 nouveaux titres et ils joueront le 16 mai à Paris aux Étoiles pour leur premier concert parisien depuis plus de 4 ans en première partie de Wings of Steel. Ça, ce sera la semaine prochaine et moi je serai de retour à Hellfest Corner, non pas fin mai, mais le jeudi 6 juin, le premier jeudi du mois de juin, pour une émission spéciale avec les Smash Hit Combo, groupe de rap metal qui va sortir un nouvel album et notamment jouer au Hellfest cette année. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.